open wide. The lover is inside, and all the tumult's done. Collided with the sun, you're staring at the sun. You're standing in the sea, your body's over me. Know the truth because the dirt is temporary. Fact face, name and monetary. Leave the stands and let the ruthless kiss you clean. Quietly pour out like light, like light, like cancer. Standing on the sun, standing in the sea. Your mouth is open wide, you try it hard to breathe. The water's at your neck.
There is this thing. Do you realize
what is what? This thing. Do you realize
consciousness is affected?
There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing going on.
What is called
the news? I'm brought to you live.
And welcome to CKUT's special edition of Off the Hour. This is a monthly broadcast live from St. Gabriel's Church in Sanctuary with Kader Baluni. This is Friday, October the 13th on CKUT 90.3 FM.
Hi. Come on, hi everybody. I'm not Kader Baluni. I'm Kader Baluni. Yeah. I'm sorry, Moose. I'm not Baluni. Anyway, on va commencer notre deuxième émission, Radio de l'Église, The Hour of Power. On espère que c'est un Hour of Power. Et on va commencer avec notre cher invité. On a quatre invités aujourd'hui. On espère que les quatre invités ils vont nous comme faire le show. Show, c'est ça. And c'est Kader B qui veut parler. Et ça fait 9 mois et 13 jours et 4 heures que je suis à l'église. Et j'espère qu'aujourd'hui, on a cette show qu'on va parler généralement pour le galerie quand il va faire notre cher Darren. Pour les réfugiés. On va parler avec Madame Liz Ferland. C'est une dame qui est la directrice de l'aire juridique dans le quartier Pointe-Saint-Charles. On a en même temps avec nous Monsieur David Wilbury, c'est un psychologue. On a notre chère aussi, Geneviève. C'est une... Est-ce qu'on dit journaliste? C'est une militante qui travaille dans le journal La Rubrique. Et la première question, ça va être comme ça. Je vais demander à Madame Liz, c'est qui Madame Liz? Elle va nous dire, c'est qui Madame Liz? Elle travaille où? Elle fait quoi dans cette ville? Et on espère que Madame Liz va me répondre dans cette question. Oui, commencez, Madame Liz.
Bon, OK. Bon, alors, bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci. On peut m'appeler Liz sans m'appeler Madame, là.
OK. J'aime ça, parce que moi, j'ai fait beaucoup de gaffes. C'est pas grave.
OK. Alors, c'est ça. Je suis avocate. Tu m'as demandé de me présenter, de dire qu'est-ce que je fais dans la vie, qu'est-ce que je fais dans Pointe-Saint-Charles. Ben, je suis avocate et directrice d'une organisation communautaire qui s'appelle les services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles, les Petites-Bourgognes. On est rattaché au réseau de l'aide juridique, mais on n'est pas tout à fait dans le réseau de l'aide juridique. On est demeuré avec le temps une organisation communautaire indépendante. Et puis moi, avec mes collègues, j'offre des services individuels aux personnes, mais en même temps, comme organisation communautaire, on travaille dans le milieu de vie de Pointe-Saint-Charles sur toutes sortes de questions parce que on pense que les problèmes juridiques que les gens ont, c'est des problèmes qui sont reliés à leur condition de vie, reliés à tout ce qui se passe dans notre société. Donc, on essaie d'avoir un regard large là sur la pratique du droit. Donc, on est des avocats contestataires, des avocats et des avocates. On essaie de changer les choses un peu dans la vie. Alors, c'est ce qu'on fait.
Si Madame Lissi demande... Si où vous êtes faites vos études?
D'abord, moi, j'ai étudié à l'Université de Sherbrooke, mais j'ai commencé par étudier en travail social. Et quand j'étudiais, on divisait les travailleurs sociaux en gens qui travaillent dans le casework puis dans ceux qui font de l'organisation communautaire. C'est-à-dire que ceux qui voulaient changer la société. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes études comme... J'ai eu un premier diplôme en travail social, organisation communautaire. J'ai travaillé dans le milieu d'organisation des coopératives d'habitation avec des locataires qui voulaient s'organiser puis se donner des meilleures conditions de vie. Et comme je trouvais que la défense des droits puis l'organisation communautaire, c'était complémentaire, ben après ça, je suis retournée étudier puis j'ai étudié en droit à l'Université du Québec où il y avait plus une concentration en droit social. Alors, donc, j'ai fait... puis j'ai continué à pratiquer ici, dans le quartier, parce que je pouvais combiner les deux aspects du travail.
We continue discussion with David Weberry. I want to ask him... Thank you, Madame Liz. I want to ask David Weberry, who's David? I want to give me a whole... Who's David? That's what I mean.
Who am I?
Yeah.
Oh... This could take a while.
I want to answer quick. Don't forget, this is an hour of power.
Okay.
CKUT 90.3 Radio Dliglis.
Okay, David Woodbury. David Woodbury is a therapist working with RIVO, the Réseau d'intervention auprès les victimes de violences organisées. I'm originally from the U.S. I came here 20 years ago. I love living in Pointe-Saint-Charles, and I'm happy to know you and very flattered to be asked to be on your program.
Thank you. Can I ask you what your diploma you have?
Well, I have a degree in philosophy, a BA from Heidelberg, Germany, and a BA in psychology from Concordia here in Montreal, and a master's of education from McGill.
Ok, that's cool. Ok, on va partir à Geneviève, Geneviève Lambert, c'est ça?
C'est ça, oui.
Qu'il va nous dire, il va nous parler. Geneviève, c'est une militante dans le quartier Pointe-Saint-Charles et il va nous parler, c'est qui Geneviève, il fait quoi dans la vie et c'est elle là la réponse de ça. Moi, je ne suis pas obligé de répondre dans sa place.
Dans la vie, mon Dieu, je fais plusieurs choses. J'aime le sport, la nature, me promener dans la forêt.
Ouais.
Mais non, je blague, là.
Oui, j'adore ça.
Je sais, c'est pour ça que je fais ça.
Ouais.
Je travaille dans un groupe communautaire dans la petite Bourgogne. Puis je m'implique justement dans un journal qui s'appelle La Rubrique depuis maintenant 5 ans. Je suis aussi dans un autre groupe ici dans Pointe-Saint-Charles qui s'appelle La Pointe Libertaire.
That's cool. Où tu as fait tes études, Geneviève?
J'ai étudié en sciences politiques à l'UQAM, puis j'ai aussi étudié en éducation à l'Université de Montréal.
Quand même, on a un groupe qui est très éduqué. Hein?
Oui.
J'espère. Right now, I want to ask Darren. Darren, I want to ask same question I give to David. Who's Darren? I give to Liz. I give to Geneviève. I want you to answer me, who's Darren?
Who am I?
Yeah. Okay. I know. I can't see you. I don't care. Just I want you to say to me who I.
Well, I'm originally from Saskatchewan, actually. I'm a Western Canadian.
Do you have some chickens there? Do you have
chickens, beef, cows, wheat, football players, cowboys? Yeah.
No, I don't care about for the wine. If you have a chicken, you are my friend.
Lots of chickens.
Yeah, that's cool.
I grew up in Regina and studied, actually in Saskatchewan, I studied education and became a teacher. I studied education and the French literature, French language. I was in Alberta studying political science, and then moved on from there eventually to Montreal to get a BFA and working on an MFA, a Master of Fine Arts now. But in Saskatchewan, I was eventually, after traveling and so forth, I became a teacher. And in the time that I was a teacher, I was also working with independent media, writing articles about Canada and the world and international relations and so forth. And in the same time, as I was a teacher, I was getting into photography as well, which eventually led me to Montreal to study at Concordia University. So I think I've answered two questions. I think I answered that education question too.
Yeah, that's cool. I think right now we play like little music. We take like, je veux pas que vous cassez votre oreille chaque fois. Alors, on va peut-être jouer un petit peu de musique. Bon. Welcome back to CKUT 90.3, Radio de l'Église. Toujours avec Kader Bik. Mais j'ai oublié qu'il faut que je parle un petit peu d'arabe parce que c'est le jour de Ramadan et c'est le mois de Ramadan. Je veux dire à toutes les auditeurs et auditrices, أهلاً وسهلاً بكم على قناة CKUT 90.3. نحييكم من هذه القناة بكنيسة بإذاعة الكنيسة على أمواج 90.3. نحييكم ونقول لكم شهر رمضان المبارك وكل سنة أنتم طيبين. توجور معكم عبد القادر بالعوني يحييكم من الكنيسة سان جابرييل تشيرش. إن شاء الله هذا الشهر هذا يدخل عليك بالمغفرة والرضوان والمحبة. Okay, on va partir de la commencer la discussion encore avec Madame Lise. Madame Lise, j'ai une question. Je ne sais pas si vous êtes capable de me répondre de cette question. Je veux seulement la question. Vous dites, c'est quoi l'heure juridique pour Madame Lise?
Ben, c'est sûr que je peux répondre à cette question-là. Vous me donnez combien de temps? Parce que je peux parler très longtemps sur...
Quand je fatigue de toi, je veux te arrêter. T'inquiète pas.
OK, mais il faut que je laisse du temps aussi.
T'inquiète pas, je sais.
Il y a plein de monde qui ont des choses intéressantes, super intéressantes à dire ici
toi
aujourd'hui.
Toi aussi, tu es intéressante pour moi.
Alors, l'aide juridique... D'abord, je peux dire que l'aide juridique, c'est un régime qui existe au Québec depuis 1973, je dirais. C'est une loi qui a été adoptée en 1972, au moment où au Québec, on a commencé à mettre en place toute une série de lois sociales de protection des personnes les plus démunies dans la société. Alors, le régime initial visait largement à fournir à des personnes qui n'avaient pas le moyen de se payer un avocat pour aller devant les tribunaux et avoir de l'information juridique, visait à leur permettre d'avoir accès à tous ces services-là et à pouvoir défendre leurs droits. C'est certain que depuis 1974, le régime de l'aide juridique a subi des transformations importantes dans le sens que c'est devenu, avec les coupures que le gouvernement impose dans toutes les lois sociales, un régime plus restrictif qui est pas très généreux. On a contesté largement dans les dernières années le fait que l'admissibilité à l'aide juridique et au niveau financier n'est accessible que pour les personnes qui sont extrêmement mal pris financièrement et que c'est une façon de d'éliminer finalement, c'est un régime d'exclusion là qui reconnaît pas que l'accès à la justice c'est un droit. Le régime existe encore, c'est sûr qu'on aide plein de personnes, mais en même temps ça correspond pas aux besoins de la population. Le niveau n'est pas correspondant aux besoins de la population parce qu'il n'y a pas eu d'indexation des barèmes d'admissibilité. Il y a des services qui étaient couverts avant qui ne le sont plus, mais c'est pas juste dans l'aide juridique qu'on voit qu'il y a des reculs actuellement au niveau de la reconnaissance des droits. Là. Nous, on conteste ça largement, mais il n'y a pas nécessairement une écoute. Les oreilles sont pas bien grandes ouvertes au gouvernement, je dirais, actuellement, pour nous faire avancer de ce côté-là.
Madame Lise, bon, moi, je suis un client, je veux appeler chez vous, OK? Mon téléphone, j'appelle, la secrétaire va prendre le téléphone, je veux un avocat. Vous basez sur quoi? Que moi, j'ai besoin d'un avocat, que je n'ai pas beaucoup d'argent.
Bien, d'abord, nous autres, à notre bureau, on a comme politique qu'il faut être extrêmement ouvert avec les personnes qui ont besoin de services parce que les gens, quand ils sont mal pris puis ils ont besoin d'un avocat, c'est pas parce que ça va bien dans leur vie, là. La plupart du temps, c'est parce qu'ils ont un problème, ils sont énervés, il leur est arrivé un malheur ou qu'ils se sont fait couper l'aide sociale ou en tout cas, ça va mal. Donc, on essaie d'être très réceptif par rapport à ce qu'ils nous expliquent comme problème. D'abord, de comprendre le problème, de voir si nous, on peut les aider et de les diriger si nous, on peut pas les aider au bon endroit. C'est certain que quand on applique la loi sur l'aide juridique, il faut demander aux personnes un peu c'est quoi l'ordre de grandeur de leurs revenus. Mm-hmm. Parce que, par exemple, actuellement, pour une personne qui est une personne seule, le niveau de revenus, c'est moins que 10 000 $ pour avoir droit à l'aide juridique gratuite. Alors, c'est vraiment peu. Mais en même temps, on essaie de donner le plus d'informations possible, même si les gens dépassent les seuils d'admissibilité où on leur dit de pas s'exclure eux-mêmes puis de venir nous voir pour qu'on essaie de les diriger puis de leur donner un minimum d'informations. C'est sûr qu'il y a des gens que malheureusement on peut pas représenter parce que le régime permet pas qu'on leur donne des services, mais on essaie de les diriger aux bons endroits puis de trouver les ressources là, qui peuvent les aider.
Parfait. Je crois que la réponse de Madame Lise était claire et nette et comme c'est plus un point sincère, on est fait pour aider le monde, c'est pas pour acheter le monde là.
Non.
Et c'est les gens de Pointe-Saint-Charles, ils nous écoutent. S'il a des problèmes, il va appeler à l'aide juridique. Et c'est toujours Madame Lise. C'est sûr qu'il va répondre avec plaisir. Je ne doute pas.
Ce n'est pas toujours moi qui réponds, mais il y a une équipe de personnes.
C'est l'équipe, qui est dirigée par Mme Liz.
Une bonne équipe.
C'est une bonne équipe. On a aussi Cathy Kramsey aussi, c'est une avocate. Là.
Ouais, qui est avec nous aujourd'hui, là, qui donne un super bon service aux gens.
Ouais. On va partir à David Woodbury. C'est une question, David. I want to ask you a question. What mean to you sufferance?
Suffering?
Yeah.
Oh, boy. Well, as a therapist, a psychotherapist, my first instinct is to ask you, well, what does it mean to you? But that would be avoiding the question here. Suffering. Well, suffering is a very complex thing. It is, on one level, it's physical pain. I work a lot with people who have endured a great deal of physical pain, but it is also an emotional and a psychological experience that depends not just on what actually happens to us, but also on how we perceive it, which is goes through the filter of our understanding of what is happening. The Buddhists have done quite a bit of analysis of this, in which they say that suffering comes from wanting. It comes from desire, in the sense that suffering is the loss of something that you have, you believe you need, or not being able to get what you think you need.
You listen to CKUT 90.3. Always the sweet Kaderbe continue, Mr.
Okay. So actually, in my work with people who are suffering, this is an important part of what I work with. I work with people's ideas of what their suffering means to them and how to understand it. Because one of the most difficult things to suffer is a sense of meaninglessness. And this is a problem that many of my clients are dealing with, people who've suffered from torture or other organized violence. They have difficulty understanding why what has happened to them and how they can live in a world where this has happened.
Je crois que c'est un grand sujet, ça, la souffrance. Oui. Je crois que ça ne va pas avec David Woodbury. Il va nous parler 10 heures et 10 heures pour ça, et ça ne continue pas, ça ne termine pas. May I think I understand very well what means suffering.
Yes, I think you do as much or more than anyone.
Je vivre ça tous les jours. Je sais. I know what it means. Mais la vie se continue. On va terminer malgré avec la souffrance, malgré avec le stress, mais on n'arrête pas notre vie. Et toujours. Kaderbe, you listen to CKUT 90.3. On dit à Mr. David Weber, merci, thank you, et va pour la réponse. On va continuer avec Geneviève Lauber. Il va nous dire c'est quoi la rubrique. Il va me répondre en même temps c'est quoi la critère pour elle.
OK. Alors, la rubrique, c'est un journal de quartier qui existe depuis plusieurs années maintenant, qui rapporte les diverses actualités qu'il y a dans le sud-ouest de Montréal. Puis, en fait, ça a été créé parce qu'on trouvait que les journaux locaux, comme La Voix populaire, puis tout ça, bon, c'est dirigé par Transcontinental. Puis, c'est toujours, finalement, des informations d'un point de vue vraiment capitaliste, puis du point de vue des élus qui se vantent eux-mêmes. Donc, nous, on voulait donner de l'information indépendante, alternative, pour montrer comme l'autre face de la médaille, puis pour informer les gens sur la vie de leur propre quartier.
C'est bon?
Ouais.
Tu peux continuer. Tu peux me dire c'est quoi l'écriture pour toi?
L'écriture pour moi, ben je suis pas vraiment une écrivaine, là. Je suis pas une romancière, tout ça. Pour moi, c'est plus un journal, c'est plus quelque chose que je fais d'un point de vue journalistique, plus pour informer les gens. Pour moi, c'est pas vraiment un processus ou quelque chose de...
Okay. C'est pas un professionnalisme, ça, ça veut dire.
Non, c'est ça. C'est plus juste pour essayer d'informer les gens. J'essaie de trouver des informations que je mets ensemble pour essayer d'informer les gens, tout simplement. Là, c'est pas.
OK. Ça veut dire qu'il y a du monde qui fait de ce travail. Il y a du monde qui pense à nous, malgré dans le quartier qu'ils disent c'est un quartier pauvre. Mais, comme j'ai dit là, pour les premières missions, je dis qu'on croit qu'on a, on y dit pauvre, mais on a des intellectuels. Et je dis qu'on va prouver ça. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai prouvé ça. Ça, c'est des gens de quartier.
Oui, puis on a plein de gens dans le quartier ici qui ont plein de choses à dire, qui sont super intéressants, puis qui. C'est vraiment un quartier, je trouve, qui se tient justement à Pointe-Saint-Charles, qui a une belle vie communautaire, une belle vie de quartier. Puis ça, je pense que c'est une richesse qu'il faut savoir profiter.
Est-ce que tu veux me dire « We don't care about the rest of Canada, we live in Pointe-Saint-Charles
» Hein? Ah, mais là, je peux pas chanter ça toute seule, là. Ça me prend des accompagnements, là. Madame Lise. Mais c'est une vieille chanson irlandaise, en fait, là, de Pointe-Saint-Charles, mais... Faudrait essayer de trouver la bande sonore là, de ça pour la prochaine émission.
On va jouer ça une autre fois.
Ouais.
On va jouer ça. Je crois que Geneviève, quand même, elle m'a répondu pour quelques notes. Mais je veux déborder les autres après. Là. Vous inquiétez pas. Don't worry. J'ai quelque chose à vous dire, Michel. Tu sais que l'équipe canadienne de hockey, elle était vendue à Hydro-Québec. Tout le monde il m'a dit « Comment ça ?» Mais oui, Kader Bill, c'est ça. Aujourd'hui, ça tombe. Hydro-Québec, il a acheté l'équipe du Canada, l'équipe de hockey. Mais quand j'ai parlé avec Hydro-Québec, j'ai dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce qu'ils sont des banques entières. » Ils sont des banques entières. C'est pour ça qu'ils ont acheté l'équipe canadienne, des compteurs de but. Ça veut dire « Mes chers, tu sais que Hydro-Québec, il a augmenté. » Pour le mois d'avril, vous payez 2,8 l'électricité. Là. Ah, mes chers, il ne faut pas couvrir le chauffage très chaud. Il faut que vous vivez dans le froid, moins 40, ce n'est pas grave. Parce que vous n'avez pas l'argent pour payer ça. Anyway, on va partir à Durin. Oh, Durin, mon ami, là, mon frère, mon ami, mon amour. Darren, I have a question for you.
We gather.
I'm thinking, what's mean a picture for you?
What's a picture?
Yeah, what's mean to you a picture?
A photo?
Yeah.
For me, it's two things. It's a document and it's a representation. So I'll maybe explain those two things. One is kind of objective and one is subjective. A photograph is made with a machine that's very cold in its view in the world. It records more or less exactly what's in front of it, which is a great power that it has, but it's also kind of a bit of a danger at times. So it kind of took over for painting in terms in history, in terms of saying this is more or less what it looks like. It's very much a trace of reality like no other technology captured before. But a little later on in the history of photography, people realized that, in fact, it wasn't just a document. It was also a representation, like a painting in many ways, because there were choices being made by the person with the camera. Who do I photograph? How do I photograph them? What kind of light do I use? What's the colors I'm using? What background do I choose? All these kinds of things. So it became clear that a photograph is a document. It's a trace of reality, but it's also the interpretation of the person behind the camera. So, which I think in causes problems for photographers and causes problems for the media sometimes because and for other institutions because sometimes a photograph can capture things we don't want it to. It can become a source of tension for governments. They may not want the certain photographs because of its documentary quality or because of its interpretation. They may not want those photographs published. So it's a powerful medium. A picture can be a very powerful thing. So I think it's essentially it's two things. It's a document, but it's also a little bit like a painting as well.
Okay. I'm think Stern answer me and answer you about the question what's mean photo for him. Je crois qu'on va partir on va jouer un petit peu de musique Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il voit comme caché pour nous quelques musiques, mais je ne sais pas c'est quoi, mais on play leur musique.
L'islam di dite ganda uga che Kip kudan li eyel tine Naslan di reyla na farle kenne Na khasal l'islam de modun senite Sheikh Ahmad Bamba mone farle wache Shukran la kala, shukran la kala Shukran, 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 shukran modu bamba Shukran la kala, shukran la kala Shulam 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 mudulam la. Khaman ma yalla, khaman ma yonentam. Wahmani jande deja musangam. Li tahnimam bo khadimu rasul. Mama yengal ba ma far jasogu. Leke tuli menen na kubbe. Winyer ko dangu lo yeso menu fagure. Yak ma ma gustu lo jente bamba. Sumadis fum julo kaya, shukran laka, shukran 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 mudu bamba, shukran laka, shukran 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 mudu bamba. Malafay khamam wele, liki bade lekundi atyal, baki dangaya dimau kana. Nanga ci yow ngir mama dem ci ganam mun ma la fay xana moye liki paté rek ngir ak yalla mbacki ta nga ya ginaaw kanam nanga ci yow ngir mama dem ci ganam so digi mama waj waj muy ki waj gaña ci ko ku dal mo Romi Abdoulaye ye chametini Ahmadou Mbacke man de santna ya ye fi baye Mamadou Lamine Bara sama digante ñala ya mo ko leer lu ne wone nga ko te taxul nga jexal ya tax may balik tir mate kem do tuma atete bana xebati jo Shukran laka, shukran laka, shukran 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 modu bamba. Shukran laka, shukran laka, shukran 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 modu bamba. Mama la fay khama mo wele, liki bate rek ngir ati yalla. Aki danga ya kinaw kanam nangoy ci yow ngir mama jam ca kanam mon mala fay xana mo le ligi bate nek ngir ati yalla aki danga ya kinaw kanam nangoy ci yow ngir mama jam ca kanam ahmadou mbacke man di sant na la jaje fi baye mo to lamine ba Sama digar tegnyala ya mako lir Lune wanenga kote takhul nga jihal Ya takh may balik dir mate Ken dotuma ate te bana khibate
Welcome back to CKUT 19.3 Radio de l'Église. You're always Kader B talking. J'ai une question. I have questions. Stupid question. I have question. Madame Liz, je te poignée maintenant.
Ouais.
comment on fait une girafe dans un frigidaire? Tout de suite, Madame Lise, tu ne penses pas?
Je ne sais pas, moi, répondre à ça, je réponds à des questions de droit.
Ah, OK. Vous voyez, une directrice n'a pas répondu. Mais c'est pas grave, on va continuer la discussion avec Madame Lise, mais elle était honnête. Elle m'a dit, je ne sais pas, je réponds les choses de droit. J'ai aimé ça. Mais tu sais comment on fait une girafe dans le frigidaire? C'est facile. On ouvre le frigidaire, on va leur faire rentrer. Et ensuite, on ferme le frigidaire. OK, c'est clair. Madame Lise, j'ai répondu à votre, dans ta place. Mais Madame Lise, c'est comment?
Ça prouve d'ailleurs, de toute façon, que les avocats, ils n'ont jamais réponse à tout. Il ne faut pas penser que les avocats savent, sont capables de répondre à tout.
On va voir absolument. Est-ce que les psychologues et les gens, les photographes vont répondre à ça aussi? Vous inquiétez pas, on a trois pièces préparées. Madame Lise, j'ai une question. Comment vous fonctionnez dans l'ère juridique? Vous pouvez me parler comment vous fonctionnez? C'est quoi? Combien vous avez de travailleurs? Combien de bénévoles? Parle-moi largement de ça.
De comment on fonctionne dans notre bureau, dans notre équipe.
C'est ça, dans votre équipe, oui.
Ouais, je dis dans notre équipe parce que je pense qu'une des dimensions les plus importantes qu'on a essayé de préserver avec le temps, c'est même si on est un bureau qui donne des services professionnels, des services de droit, c'est de travailler en équipe, de former une équipe puis de comprendre que tout le monde a un rôle très important et complémentaire et que quand les gens viennent à notre bureau, ils sentent que l'ensemble des personnes qu'ils vont rencontrer sont soucieuses d'abord de les respecter, de les écouter et puis de leur donner, répondre à leurs besoins du mieux qu'ils peuvent. Donc, je pense qu'on a tous des compétences qui sont complémentaires. Des fois, je dis que je suis le chef d'orchestre un peu parce que je coordonne l'équipe, donc on essaye de mettre en valeur les compétences de tout le monde. Actuellement, on est au bureau, on est une dizaine de personnes. On est quatre personnes avocats, deux gars, deux filles. Les deux filles sont ici aujourd'hui et il y a deux hommes avocats avec nous. Il y a des adjointes juridiques. Il y a une personne qui est une secrétaire réceptionniste qui fait l'accueil. Il y a une autre personne qui s'occupe des questions plus d'administratives. On a une organisatrice communautaire à temps plein avec nous parce que on organise des activités offertes à toute la population puis elle nous aide à organiser ça. Comme tu vois, la semaine prochaine, on fait une activité qui est une activité porte ouverte, qui est ouverte, ben c'est porte ouverte, le mot le dit, là, on accueille toutes les personnes qui voudront bien venir nous voir, puis on offre des petits ateliers d'information sur différents sujets, donc les gens peuvent venir.
Différents sujets, ça veut dire quoi, vous voulez dire?
Ben, par exemple, il y a un avocat qui va expliquer qu'est-ce qui arrive, on appelle ça le vol d'identité, si vous faites voler tous vos papiers, mm-hmm. puis quelqu'un utilise votre numéro d'assurance sociale, puis utilise votre identité pour vous frauder ou pour avoir accès à du crédit ou whatever, on va expliquer aux gens comment se déprendre de cette situation-là.
Madame Lise, ici, comment les gens vont savoir que vous avez un atelier?
Ben, on l'a annoncé dans le quartier, dans le journal de quartier, La Voix populaire, la rubrique. Je pense qu'on a manqué notre tour pour l'annoncer.
C'est quand?
C'est le 19, c'est jeudi le 19 octobre. L'après-midi.
Est-ce que vous pouvez donner l'adresse?
Notre bureau est situé sur la rue Centre, presque au coin de la rue Charlevoix. C'est 2533 rue Centre. Et puis, c'est dans l'après-midi, l'activité, là, comme de 1h à 5h. Bon, quand on fait ce genre d'activité-là, on met des annonces dans le quartier, on met dans les groupes communautaires, on informe les personnes qui viennent à nos activités puis qui veulent être sur la liste d'envoi. On envoie des courriels. Bon, on prend toutes sortes de moyens pour diffuser puis rejoindre. Là, on affiche des posters chez Poteau. Ouais. On fait un peu tout ce qui fait que les gens savent qu'il se passe quelque chose dans un milieu de vie.
Ça dure combien de temps, Madame Lise?
Ça va quoi?
Ça va durer combien de temps?
L'activité?
Ouais.
Ben, l'activité porte ouverte, c'est toute l'après-midi de jeudi. Okay. Les ateliers, ils durent une demi-heure ou trois quarts d'heure. Puis on va faire au cours de l'année d'autres activités une fois par mois. On appelle ça les jeudis de la justice. On va trouver des sujets qui intéressent les gens. Puis on va faire la publicité. Puis c'est ouvert à tout le monde aussi. Alors on va continuer comme ça au cours de l'année. Ça fait partie des activités qu'on fait. Puis tu me demandais, est-ce qu'il y a des bénévoles? Ben oui, il y a des citoyens du quartier qui sont impliqués puis qui travaillent avec nous. Il y a, par exemple, des gens qui sont membres du conseil d'administration de notre organisation. C'est des gens qui habitent soit Pointe-Saint-Charles ou Petite-Bourgogne puis qui donnent du temps bénévolement pour nous aider à réfléchir au genre d'activités qu'on doit faire, à la qualité des services, aux liens qu'on fait entre la défense des droits individuels puis la défense des droits collectifs, sur quel dossier on travaille plus largement, les positions politiques qu'on prend. Quand on décide d'écrire des lettres pour revendiquer ou pour poser d'autres gestes, là, par exemple, pour améliorer l'aide sociale, on discute ça aussi avec les citoyens du quartier puis qui nous aident à mieux orienter le travail qu'on fait.
Madame Lise, à peu près combien vous recevez combien de téléphones par jour, à peu près, des gens qui ont besoin de l'aide?
Par jour, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas nécessairement, mais regarde, quand on fait le rapport de l'Assemblée générale, là, on a dit, on a calculé que l'année dernière, on a ouvert à peu près 1000 dossiers. Bon, ça veut dire que des fois, c'est la même personne, mais qui a plusieurs problèmes juridiques, là, mais je veux dire, c'est un ordre de grandeur du nombre de personnes qui viennent nous voir. Puis, des personnes qui nous téléphonent et à qui on donne de l'information, il y en a autant dans une année à qui on parle, on les aide à se diriger au bon endroit. Un autre 1000 personnes, là, tu sais. Alors, des journées, on est bien occupés, des journées moins. C'est...
OK, j'ai bien compris, Madame Lise, de vous, que vous dites, OK, le monde qui n'a pas d'argent, OK, vous l'aidez. Mais si quelqu'un qui l'a revenu, qui a une rentrée d'argent, un montant d'argent qu'il fait comme 1 500 $, 2 000 $ par mois, par exemple, ça, c'est le minimum. Est-ce que vous le dirigez à d'autres places ou vous le chargez ou je sais pas?
On peut pas nous prendre des dossiers puis facturer les personnes. Okay. Ce qu'on fait quand on est certain que c'est une personne qui n'est pas admissible à l'aide juridique, ce qu'on essaie de faire, c'est de diriger les personnes vers les ressources appropriées en fonction du problème qu'ils ont. Donc, on peut les référer à d'autres avocats s'ils ont besoin d'un avocat. Mais des fois, les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est d'informations puis de savoir comment je me démêle avec un problème que j'ai, par quel bout je peux le prendre, qu'est-ce que je peux faire avec. Alors, on leur donne de l'information. On peut les diriger vers d'autres ressources. Alors, on fait pas juste dire au monde, vous n'êtes pas admissible, allez voir ailleurs. Là. On les dirige aux bonnes places.
OK, ça veut dire c'est intelligemment.
On espère. On espère.
Madame Lise, il liquide les clients intelligemment aussi les autres personnes. Là. J'ai bien compris. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Merci, Madame Lise.
Ça me fait plaisir.
Mais vous êtes me dites comment m'appeler pas Madame Lise.
Ouais, c'est ça.
Lise.
C'est mieux.
Lise. Je sais que tu as un enfant, Lise aussi. Hein?
Oui.
Il a quel âge?
Il a 15 ans.
Ouais, il a 15 ans, wow! Comment il s'appelle?
C'est un garçon, un grand garçon de 15 ans, il s'appelle Gabriel.
Ah, OK, Gabi.
Gabi, oui.
Gabi.
Mais pas Gabi, Gabi c'est son nom de petit, maintenant adolescent c'est juste Gab.
OK, Gab. OK, on va couper le « et », après qu'on va faire 20 ans, on appelle seulement Gab.
Faudrait que tu discutes ça avec lui directement.
Merci, Madame Alice. Bon, we continue the discussion always with Kader B. We continue the discussion with David Weber. David, I have more question for you.
Okay, sure.
Are you ready?
I'm ready.
Yeah. What means psychology for you?
What does psychology mean for me? Yeah. Well, psychology is something that the meaning of it changes over time. It's a construction, an idea that nowadays is used in many different ways. It can be the study of the brain. It can be in that way almost indistinguishable from physiology, or it can be the study of behaviors. It can be the study of cognitive processes, of thinking. It's a very large subject. For me, in terms of my practice, it's also large. One thing I would like to say is that psychology is, in a way, a science, in a way, many sciences, and in a way, it's an art. When you talk about psychotherapy, there's a lot of art involved, I think.
Here I have a question. It's come now to me. What do I know? You work with the refugees, yes?
Yes, I do.
Talk to me about situation refugees, please.
About what?
What's mean situation? What's how the suffering for refugees?
Suffering of refugees. Well, refugees are dealing with many kinds of suffering, usually, in that many of them, they come because they are afraid of being persecuted at home, and many of them have been persecuted. Many of them have lived through extremely traumatic experiences in the past, in their countries. And also, superimposed on that, there is the experience of having to leave their countries, leaving behind family, friends, mothers, sometimes even children and their spouses. This is extremely difficult. Also, when they arrive here, there is the suffering that's imposed by the Canadian immigration system. Many people come here with a naive belief that Canada is the homeland of human rights, and they have a very rude awakening on arriving in the airport when they find that they are being treated very suspiciously by people in uniforms, made to feel as if they are some kind of criminal. If they don't have proper identification, they can end up in detention immediately from the airport. This is incredibly stressful and difficult. Then they have to go through a process of determination of their status, which can drag on for months and years, as you well know. It is a system that is supposedly, according to the way the law is written, supposed to offer protection to people in need of protection, but it seems often to be instead trying to protect Canadians or Canada from the people who come here asking for exile. I don't want to generalize and say that everybody involved in the system is bad or is not doing a good job, because there are many excellent people working hard to help people in the system. But in general, I find that most of the refugees I work with experience it as an excruciating process, which brings back memories of the powerlessness they felt in their own countries, as I'm sure you could attest much more, much better than I.
Did you cry one day?
Did I cry one day? No, I cried many days. But usually I try not to cry in front of my clients, because I don't want them to feel that I've sort of lost control of the situation. The last thing they need to do is feel guilty because they've made me feel badly. But I do cry on my own. Yes.
Okay. Je mets maintenant moi je te fais rire. On va passer de la pluie, on va te faire rire. Comment on fait un éléphant dans un frigidaire?
Well, I guess you have to fold it very carefully.
I have a question. I give you answer. Question, give me answer. How we put a leaf on the fridge?
Well, you fold it very carefully.
No.
And then you put it in.
No.
No?
Tu vas sortir la girafe et tu vas placer.
Ah!
Tu vas placer le leaf on.
Okay.
Okay?
Okay.
Je te fais rire maintenant. Hein?
Yeah.
Okay. Moi, je fais pas le monde pleure. No, it's not my style.
Okay.
It's not my style.
I like your style.
Ah, thank you. It's not my style. I'm suffering by myself inside my heart, but I never show up to anybody. Okay, this is always Kader B speaking, right? In CKUT 90.3. I'm thinking right now I want to talk to Darren now. I want to talk to Darren.
I want to talk to you, sweet Catter B.
Ok, thank you. J'ai une question de, parce que je veux mentionner quelque chose de très 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 sweet, très très bon et très très chaud. Tu sais que Darren, il a parti son galerie cette semaine. Et je veux dire, c'est hier. Et cette galerie que Darren, il a pris des photos. difficulté personnalité en Canada. Des gens qui ont des problèmes. Ça dépend pour la sécurité. Il y a des gens certificat de sécurité. Il y a des gens qui ont des problèmes avec seulement avec l'immigration. Mais c'est un problème. Il reste un problème. Devenu, il a pris une décision pour voyager au Canada. Je sais qu'il a pris beaucoup de temps, mais je ne sais pas combien. Il a beaucoup de photos aussi. Et Darren, il va me dire combien de temps, combien de jours ça a pris ce projet à lui. Il va me répondre aussi vraiment c'est quoi aussi lui aussi là. Je sais Darren aussi il est un petit peu fragile dans son cœur lui aussi. Et je sais que là, ça le touche les photos beaucoup. Il va me parler, ça me prend combien de temps pour faire toutes ces photos. Il a voyagé où. Et mais c'est tout ça, Darren va me répondre.
Well, I've been working on it for a year and a half, 2 years actually. The whole project at this point has gone on for 2 years. It started in 2004, around this time of the year, maybe a little earlier. When I had come back from the occupied territories for my second time, this second time was in the West Bank in 2003. And when I came back, I realized that after what I had seen in Gaza and in the West Bank, where I saw people get their homes demolished in front of my eyes and people getting shot and interviewing people whose homes had been blown up and watching bulldozers raise people's farmland and so forth, that when I came back, I realized there were people here, primarily men, but also some women, Palestinian refugees that were threatened with deportation back to where I just came from and also to southern Lebanon, which is a very difficult situation for the Palestinian refugees as well. So 2 years ago, I decided, well, maybe I can work with these people to connect the the faraway reality to the local reality, to the refugees that were here, and began taking portraits. And so over the 2 years, I've spent, well, I won't count the money, but I will count the time. It's many, many, many hundreds of hours talking to people, phoning, emailing, connecting, traveling, meeting them, discussing with them, interviewing with them, taking some preliminary photos, going back and taking another photo, sometimes a third. As you know, Kader, you're in the exhibition yourself. We had to do two different shoots, which were both successful, but the second one was I think, more successful. And you know also that each of the photos take quite a few hours themselves just to get one photo. I'm here for 3 to 4 hours with you.
I know, you make me tired.
Because the equipment I use is very heavy and very complicated, so to get the big photos that I get, it takes a lot of technical, a lot of time, kind of like setting up a radio studio in a church. So it's a lot of time, but I can honestly say it's extremely rewarding. It's it comes straight from the heart, but it comes back to my heart as well, because I get to meet people. I get to learn a lot as well. I get to learn about, I think, reality, and I think reality is very interesting. And I
then
think,
because we don't have much time now, I'm thinking more than 6 minutes. Talk to me about your show.
Okay, I'll give first maybe the coordinates and stuff, so if people want to go see it, they can. It's at a gallery called Dazi Bao, Centre de Photographie Actuelle, and it's located at 4001 Berry. So that 4001 Berry is just south of Duluth, up on the plateau in Montreal. And it's on from yesterday, so October 12th, for 4 weeks. It's going to be running until the 11th of November. The gallery is open Tuesday to Saturday from 10 to 5. And there you will find 12 life-size portraits of people like Kader, people who are in sanctuary, people who are detained or out on bail on security certificates, people who are denied status for years and years on end, others who are caught up in other traps with CSIS and the security establishment in Canada. And you'll be able to see the photos, you'll be able to read about them, you'll be able to also to listen to an audio track which has their voices talking about their situation.
What's the name of your show?
It's called Between States, referring to the status of these people who are between two states. Their identities are, their rights are in suspension because they have left one country and they haven't been accepted into another one yet.
Okay. If someone you have to email you, do you have address email or something like that?
Yes, they can send me an email at darren.e@simpatico.ca. So that's darren.e@simpatico.ca.
Okay, do you have phone number or something?
They could. I just start with email and then we'll.
Okay,
we'll go
can you say again your email?
Yeah, it's Darren, darren.e@simpatico.ca.
Okay, vous êtes écouté de Darren. Can I parler de son show?
And also, Catter. Catter is in the show.
Yeah, yes. I think so. I'm sure, but I don't know. Somebody he saw my picture there, but
it's there. It's good. Yeah, you look good.
Yeah, but Darren, I have a question for you.
Okay.
Le lion.
Oh no.
Le lion.
Yes.
Le lion, il a invité tous les animaux pour faire une meeting. Sauf un animal qui n'était pas là. C'est qui?
C'est probablement l'éléphant parce qu'il est dans le frigo.
Ah.
Non?
C'est ça. C'est intelligent.
Woohoo.
C'est intelligent.
C'est toutes ces années d'université.
Ça, c'est intelligent. Ok, c'est bien ça.
Merci, Kada.
Merci. On va partir à Geneviève, je crois. Avec Geneviève, on va terminer cette show. Et Geneviève, s'il te plaît, j'ai une question précise. Larry Brick, ça fait 5 ans qu'il est dans le quartier.
Oui.
Vous êtes combien de travailleurs? Est-ce que vous êtes comme ouvrir pour 10 autres gens qui vont venir pour vous aider? Combien de bénévoles vous aviez? Est-ce que vous aviez un local?
On n'a pas de local. En fait, nous, on est tous des bénévoles.
Okay.
Puis on est vraiment un collectif qui est non hiérarchique, qui fait de la démocratie directe. Mm-hmm. Donc, on décide tous ensemble. On essaie de se mettre tous d'accord ensemble quand on prend des décisions. Puis je veux dire, avant, parce que je sais qu'il reste pas beaucoup de temps, qu'on va lancer notre prochain numéro de la rubrique. Ça va être le 12e numéro. Puis on va faire un souper aussi avec toi en même temps, hein,
ouais,
tu sais?
Oui, c'est le 27.
Oui, le 27 octobre.
Est-ce que tu peux donner l'invitation à tout le monde et te donner l'adresse en même temps?
Oui, alors c'est le 27 octobre à 6h. Donc il va y avoir de la bouffe, ça va être un souper. Il va y avoir des films qui vont parler sur qu'est-ce qui se passe au Liban, les actions aussi qui ont été faites à Montréal, les actions en solidarité là-bas. Ça va être des courts-métrages. Il va aussi avoir un spectacle de Gumboots et puis peut-être aussi de la musique, un groupe qui va venir faire de la musique. Puis, ça va être ici, au sol de l'église ici.
L'adresse, c'est le 2157 Larry Centre, métro Charlevoix, la ligne verte.
Exactement.
C'est à quelle heure?
C'est à 6 heures.
Ça veut dire ramener vos fourchettes. C'est ça. Pas de couteau, seulement des fourchettes.
Oui.
Ouais. Et...
Puis je veux aussi dire que la rubrique, nous, on parle beaucoup aussi des enjeux locaux, de qu'est-ce qui se passe ici dans le quartier. Puis il y a un super gros projet qui s'en vient sur la Nordelec. C'est un super gros building qu'ils veulent transformer en condo. Il va y avoir plus que 1200 unités de logements, de condos. Et puis il y a une consultation publique. En fait, c'est la première séance d'information qui se déroule lundi prochain, le 6 octobre à 19h30 au sol de l'église Saint-Charles qui est au 2115 rue Centre.
Parfait. Merci beaucoup pour cette information, Geneviève. J'ai quelque chose qu'on va lancer avec Mary. Il va nous dire qu'il a quelque chose à préparer pour le marche. Mary, est-ce que tu peux approcher?
Oui, on va avoir une marche de solidarité avec Kader le 1er décembre, commençant à 10h le matin, c'est un vendredi, 10h le matin, ici à l'église, 2157 rue Centre, c'est le 1er décembre.
Can you say in English?
Yeah, we're having a solidarity.